Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute!
Merci à mon hébergeur Acas de me prêter son studio pour cet enregistrement. Aujourd'hui, je reçois dans Genre de fille Laurence Velli. Salut Laurence.
Salut Anne-Laure.
Je suis super contente de te recevoir au micro de Genre de fille. Donc on va parler évidemment de Thune, le podcast que tu as créé et que tu animes avec Anna Borel.
C'est
vous
ça.
Êtes deux, mais aujourd'hui tu es la seule à être là. Tu as aussi créé les Déviations, on en reparlera un peu plus tard. Moi, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et j'ai regardé un peu les messages qu'on s'était envoyés et je t'avais envoyé un message il y a un an et demi pour que je t'invite au micro de Genre de fille. Tu m'avais répondu « Oui, avec plaisir, mais je ne suis pas encore prête ». Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es prête aujourd'hui pour parler de toi ?
Ah bah là, on va tout de suite dans le dur. Très transparente, j'étais un peu au bout du rôle il y a un an et demi. J'ai vécu un événement assez violent. Là, ça fait 2 ans. J'ai mon papa qui s'est suicidé. Donc, j'étais un peu... Je viens de flinguer cette interview en 2 secondes. On vient de perdre 3 degrés dans la pièce. Non. Et donc, du coup, j'ai mis longtemps à me sortir d'un état de grande tristesse et de fragilité. Donc, c'est vrai que j'étais pas prête. Je sais pas si je le suis encore tout à fait, d'ailleurs.
Ouais.
Parce que
Parce qu'en plus, c'est donc cette fois qui, d'habitude, reçoit tes invités depuis un bon bout de temps maintenant avec Thune.
Ouais.
Avec les Déviations, tu faisais aussi parler des personnes sur leur reconversion.
Ouais.
Et en fait, est-ce que tu en as fait beaucoup, toi, des interviews ou c'est quelqu'un qui va t'interviewer? Enfin, j'imagine que c'est pas forcément évident.
Ça arrivait quelques fois et c'est assez agréable.
Tu te laisses guider?
Ouais, j'aime bien.
Ouais,
j'adore. C'est vrai que... Et c'est vrai que c'est un peu stressant. Tu te dis, putain, est-ce que je suis en forme? Est-ce que... Mais je vais avoir mes règles la semaine prochaine. Du coup, je suis un peu... Ah putain, je suis pas du tout au top. Si c'était la semaine dernière, j'aurais été au top. Tu vois, ouais, c'est rigolo.
Et est-ce que tu as réécouté, justement, les interviews que tu avais faites? Est-ce que tu te réécoutes ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Ouais, moi, c'est
pas
pareil.
Du tout. Ouais.
C'est vraiment... J'imagine, moi, j'aime pas entendre ma voix. Mm. Je réécoute jamais... Enfin, je trouve ça plus, je me dis, ok, maintenant, ce qui s'est passé, ça sert à rien. Je vais pas écouter et me dire, ah là là, j'ai l'air trop conne.
Ah,
ah là là, je rigole comme une débile.
C'est insupportable d'entendre sa voix.
Oui.
Ce que je trouve très dur aujourd'hui, c'est les interviews vidéo, en fait, qui te font une espèce de mausolée sur Google, quoi, ou quand on tape ton nom, ad vitam. Il suffit que tu fasses une mauvaise interview vidéo avec un mauvais jour. Que l'intervieweur ou l'intervieweuse soit nul, moi ça m'est arrivé ce cas de figure-là, justement dans cette période un peu noire, rien n'allait. Et on m'avait collé pour m'interviewer la stagiaire, alors j'ai rien contre les stagiaires, mais vraiment, elle passait d'une question à une autre et rien n'avait aucun sens.
Ouais.
Et c'était des questions extrêmement vagues, du genre « Et sinon qu'est-ce que vous pensez du féminisme ?» Là, ok, enfin oui, bon, c'est bien, c'est une mauvaise
voix.
Et donc en fait, tout était un peu pourri comme ça. Donc, tu dis finalement que de la merde, parce que c'est un métier d'interviewer, de faire une bonne interview. T'es mal à l'aise parce que l'énergie de l'autre en face, d'un côté, t'as pas envie de la vexer, mais tout ça se ressent.
Ouais.
Et bim, ad vitam, quand on tape ton nom, c'est ce qui remonte sur Google.
Et c'est fou. Moi, je me demande aussi dans quel ordre. Enfin, je sais pas si c'est les mots-clés ou j'en sais rien, mais effectivement, ça, t'as des trucs qui remontent, qui sont pas forcément les plus importants.
Ouais.
Et ça a laissé une trace. Et...
C'est ça.
Dans un article paru dans Le Parisien il y a quelques années, quand on te pose la question « alors ton parcours pro en quelques mots ?» et toi, tu réponds juste un mot, tu dis « complexe ».
Ah ouais ? Ah ça, c'était dans Le Parisien. Ah ouais, c'était au moment des
complexe, en exclamation.
Hyper complexe. Enfin, hyper complexe. Pas plus que certainement énormément de gens, mais...
Et justement, tu vois, c'est... Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques années, ça pouvait paraître complexe. Aujourd'hui, en fait, ton parcours pro, enfin, tu nous vas nous le raconter un petit peu, il n'est pas si complexe que ça. Il est en fin de compte hyper cohérent, non ?
Bah, y a une cohérence, mais que je commence à voir, qui est une cohérence un petit peu sur les, je veux dire, ce qui m'excite, les sources d'excitation et les endroits où je suis bonne et performante, mais en fait, que j'ai mis du temps à reconnaître et à accepter. Parce que moi, au contraire, je regardais tous les endroits où je n'étais pas performante, si tu veux. Moi, je viens d'une famille où tout le monde a des boulots assez sérieux. Toute ma famille, mon père était gynéco, ma mère est infirmière, tous mes frères et sœurs sont médecins. Donc, il n'y avait pas trop d'options. Voilà, on était bons à l'école, on faisait des études et puis on faisait une école d'ingénieur où on faisait médecine ou éventuellement, peut-être que j'aurais pu faire du droit encore, comme on n'a jamais parlé. Moi, j'étais très mauvaise à l'école, je n'arrivais pas à écouter en classe, je ne comprenais pas pourquoi. Puis surtout, j'étais... Enfin, j'étais surexcitée, si tu veux. Quand, je ne sais pas comment font les jeunes à 17-18 ans, là, quand tu as les hormones qui bouillonnent. Il y a quand même plein de trucs qui sont tellement plus marrants que de rester assis sur une chaise. Je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas ? Tu fais ce truc un peu middle qu'on appelle la com. Tu te dis, ah, je crois que je suis super créative et je ferais bien histoire de l'art, un truc comme ça. Et tes parents font, fais plutôt une école d'ingénieur. Et puis, d'un coup, on te sort d'un chapeau. Comme ça, tu vas faire de la com. Et on te vend une espèce de créativité. Et en même temps, potentiellement, tu pourras gagner du fric.
Et t'as fait une école de com ou t'as...
J'ai fait de la pub. D'accord. J'ai fait une école très moyenne pour être conceptrice rédactrice. Donc 2 ans. Et puis à l'issue de ça, je me suis retrouvée conceptrice rédactrice. On m'a recrutée direct, très bien payée. Très, très bien payée à l'époque. J'avais 20 ans, quoi. Et j'étais conceptrice rédactrice. Je pondais des petits slogans un peu marrants.
Donc des études pas très longues.
Alors non, pas longues, pas longues.
Enfin, ils t'ont pas poussé,
mais parce qu'on m'a recrutée direct. Ouais, j'étais chez McCann et tout. Et je fondais des petits slogans. Et je me disais, ça peut pas être ça, la vie. C'est bizarre, tous ces gens qui sont tellement contents alors qu'on fait un boulot tellement facile. Déjà, une petite angoisse des cantines d'entreprise et tout. Un truc, tous les jours d'aller bosser qui m'angoissait vachement. Et donc, du coup, j'ai repris des études et j'ai fait un peu plus de journalisme. Enfin, c'était du journalisme, mais avec une petite spécialité télé. Et puis, voilà. Et donc, après, je suis devenue doucement... J'ai un peu vécu à Dubaï 2-3 ans.
Ça, oui, mais attends, j'ai vu ça. Ouais. Mais comment c'est que tu sois allée vivre à Dubaï ? Je t'imaginais pas du tout à Dubaï.
Ouais, moi non plus. Ouais. moi non plus. C'était assez absurde comme choix. C'était un moment, je sortais d'un boulot, je crois, un petit boulot, une courte mission chez Canal+, après avoir fini le journalisme. Et puis, on m'avait promis une sorte de poste absurde, du genre, tu vas être assistante réal sur une émission de ciné à Hollywood. Tu sais, ce genre de truc. Et toi, t'as 22 ans, t'y crois, mais il y avait encore du fric à la télé à ce moment-là. Donc, je dis, ah ouais, c'est cool, le mec m'a dit ça. Tu parles, le mec m'avait dit ça dans un coin de porte. C'était quand même bien avant MeToo, tu vois, en disant, mais si, je te rappelle. Et puis, tu sais, au bout de 3 mois, t'es là, il m'a pas rappelé. Tu relances, tu te prends un mail. Oui, je te contacte bientôt. Tu dis, ah, il m'a dit qu'il me contactait bientôt, c'est super. Moi, je vais, en attendant, je vais faire serveuse. Et donc, voilà, tu vois, t'attends. C'était quand même n'importe quoi. Et puis, à un moment, je suis au plaqueur de l'hiver. Je suis serveuse dans un bar à Montparnasse.
Dans une crêperie. Dans
mais un truc un peu glauque. Je rentre chez moi. J'ai plus ou moins un mec. Mais c'est on sort trop. On sort tous les soirs. On se lève à 11h. Je vois, là, ça pue la loose, tu vois. Ça commence à durer, descente. Cette histoire, tu vois. Et là, on me propose d'aller à Dubaï. Je fais, mais vous rigolez. Je sais pas, c'est ce pays ultra-capitaliste sur fond d'imam. Enfin, c'est hors de question, je n'y vais pas. Et puis, 2 mois après, en février, je rappelle, je suis bon, ça tient toujours, la proposition Dubaï. J'arrive. Et donc, à la base, je vais rester 1 mois ou 2 et je suis restée 2 ans et demi. Et c'est passionnant.
Ouais.
Mais c'est passionnant, Dubaï. C'est-à-dire que, oui, c'est un endroit extrêmement problématique, mais enfin, au-delà de problématique, c'est-à-dire y a pas, les droits de l'homme n'existent pas. Ouais. Je me sentais très mal à l'aise dans ce pays à plein de niveaux. C'est-à-dire que assez vite, j'ai eu un amoureux, on habitait ensemble, mais on n'était pas mariés, c'était un problème. Je me suis retrouvée une fois en garde à vue dans un aéroport pour une connerie où je me suis fâchée avec quelqu'un, or c'était un flic. Donc j'ai eu super peur.
Ouais.
Je me suis dit, je me voyais passer 15 ans de ma vie en prison là-bas, tu vois, enfermée. Voilà, mais j'ai vu Midnight Express, si tu veux. Donc, c'est un endroit qui est très problématique. Il y a l'esclavage, il y a plein de choses. Et puis, il y a toutes les nuances dont les médias ne parlent pas. C'est-à-dire tous ces Indiens qui vont suer sous 50 degrés pour construire des immeubles. Quand tu vas au Kerala, y en a beaucoup qui viennent du Kerala, donc dans le sud de l'Inde, tu te rends compte qu'effectivement, les mecs, ils ont une baraque qui fait 10 fois celle de leurs voisins et qui tiennent à continuer à y aller, si tu veux. Ils vont bosser là-bas 3-4 ans et puis ils reviennent avec du fric. Ça leur fait, ça fait vivre toute la famille pendant hyper longtemps. Okay. Alors, il y aurait certainement des façons beaucoup, beaucoup mieux de le faire. Attention, je ne suis pas en train de justifier une forme d'esclavage. Mais en attendant, voilà, c'est un pays qui est intéressant. C'est un pays, c'est une espèce de tour de Babel où tout le monde n'est là que pour une seule raison, c'est l'argent.
Ouais.
Aujourd'hui, un peu moins, mais il y a quand même eu une sorte d'âge d'or quand même complètement dément. Il y a 90 nationalités. Enfin, moi, quand je...
Tu bossais dans la com là-bas ?
J'ai bossé dans la... Ouais, j'ai fait des boulots bizarres. J'ai bossé dans un hôtel. On m'appelait The Ashtray parce que je faisais que fumer en ayant l'air occupé parce que je ne comprenais pas du tout ce que je devais faire. Donc, je faisais des allers-retours comme ça. Et puis, moi, j'avais refusé de voir un Français pendant un an. Donc, je ne parlais pas aux expats. Je ne traînais qu'avec les Indiens, les Pakis. Je bouffais à la cantine, parce que déjà la cantine d'entreprise c'est chaud, mais
on
quand c'est
la cantine.
À la cantine avec que des Indiens où tu bouffes du riz avec toutes sortes de curry tous les jours, je suis sûre j'en peux plus. Et j'habitais dans une baraque avec des Philippins, des Irakiens, des Chinois, des Pakis. Enfin, c'était quand même une vraie plongée dans un monde, voilà, auquel j'aurais jamais eu accès, quoi, normalement. Tu sais, le Paki avec la blouse blanche et le pantalon blanc,
ouais,
là,
ouais.
Tu vois ce Paki-là. Il n'y a aucune chance que tu le côtoies plus que ça. Bah moi, je le côtoyais. J'avais un pote paki comme ça. J'avais des potes saoudiens. C'était absurde. Alors après, on ne partait pas du même endroit. C'était les mecs. C'est là que tu vois quand même la façon dont on est perçu comme ça à l'international. Il y avait toujours un moment où ils me disaient, bon, c'est sympa tout ça, mais les Françaises, enfin vous, les Françaises, vous couchez avec tout le monde. Est-ce que tu veux bien coucher quand même avec moi? Parce que c'est votre façon de faire, quoi. T'étais là, non, mais tu sais, t'es sympa, je t'aime beaucoup, mais non, non, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est intéressant. C'est un lieu intéressant. Et j'ai pas réussi à convaincre grand monde sur Dubaï. Je trouve que c'est un vrai voyage d'y aller. C'est une claque. Mais comme aller à Las Vegas ou dans tous ces endroits un peu dégueux, si tu veux, c'est pas des destinations hyper valorisées, hyper vertueuses.
Ouais.
C'est pas vertueux, mais des claques comme ça, enfin, c'est un voyage. C'est un voyage.
Donc, tu as cette expérience à Dubaï.
Ouais.
De retour en France, tu as bossé pour pas mal de rédactions dans la presse. Alors, je ne sais pas si on dit la presse féminine.
Tu
avais GQ, Glamour,
ouais.
Vanity Fair.
Ouais.
Et puis, en 2018, tu as créé le média Les Déviations, dédié
ouais.
au changement de vie et à la quête de sens.
Ouais.
On en parle un peu des
ouais.
déviations. C'était quand même assez fou.
C'était assez fou.
Ouais.
Ouais, ouais, c'était assez fou. En fait.
C'était que des parcours de personnes.
C'était, ouais.
Des reconversions assez emblématiques.
Ouais, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, dans la presse, moi j'ai adoré cette époque. Donc j'ai passé 7 ou 8 ans chez Condé Nast. Il y avait de l'argent, il y avait des gens super. Enfin, vraiment, les équipes.
Attends, Condé Nast, du coup, c'est Vanity Fair.
Vanity
GQ.
Fair, GQ, Glamour, tout okay, ça, c'est ouais. un gros groupe de presse américain. Moi je suis une provinciale montée à Paris, si tu veux. Il y avait ce fantasme. Enfin, Condé Nast, c'est le New Yorker aussi, tu vois. Enfin, t'as vraiment ce fantasme qui aujourd'hui n'existe plus, mais moi je suis sur la queue de la comète, j'ai pas vécu l'âge d'or de la presse, mais on savait qu'on était privilégiés, on était contents d'être là, et les gens avec qui je bossais étaient honnêtement dingues. Donc il y avait cette joie de ce travail, de produire des articles qui étaient lus, d'y mettre du style. Aujourd'hui, le style, ça n'existe pas. Le SEO a tout flingué, on fait plus du style, on fait du référencement, on fait du lisible, voilà. Mais à l'époque, voilà, t'avais les plumes, t'avais les signatures, les rédactions, c'était le bordel. Les conférences de rédaction, c'était des endroits où on n'était pas d'accord, où on se frittait, où il y avait des avis forts. Enfin, il y avait un truc assez magique. Et puis, j'ai vu ce truc-là un petit peu décliner entre 2013 et puis 2016. Et puis, super décliné, en fait. De plus en plus, j'ai vu les journalistes devenir malheureux, leurs privilèges. Il y avait des privilèges, hein, mais on parle de gens qui faisaient un métier passion, qui n'ont jamais été très riches. Enfin, donc, franchement, si leurs privilèges se réduisaient en plus du fait de ne pas être lu et tout, enfin, c'était vraiment très triste, tu vois. Et donc, je me suis dit, putain, il faut vraiment sauter du bateau. Et en plus, ça tombe à une époque où moi, j'élève mon fils, on est tous les deux dans un petit appart dans l'11e. Je gagne assez bien ma vie parce que j'étais rédac chef de site digital dans ces médias. Et je me disais, c'est bizarre, je me cogne quand même à des vitres. J'arrive pas à faire évoluer mon niveau de vie. J'arrive pas à avoir de futur. J'ai l'impression que... Il y avait vraiment cette impression de me cogner à des vitres. Et donc, commence à naître la question de mais comment on enclenche un changement? Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que moi, je suis... extrêmement méfiante vis-à-vis de tout le truc de développement personnel. Je trouve qu'il y a 90% de conneries et que tout vient vraiment d'une espèce comme ça de d'énergie intérieure. À un moment donné, il se passe un truc, mais comment on fait ? Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais fait un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'avais acheté un scoot avec toute la peur que ça peut faire de conduire à Paris. J'avais un petit 125, hop, hop, vroom, vroom. Et ça, c'est ça qui m'a donné la force de démissionner de mon dernier boulot. Je me suis barrée dans le vide comme ça et de me dire je vais faire un truc, je sais pas quoi, mais si je peux conduire un scooter dans Paris, je peux faire plein de trucs.
C'est fou ça, le scooter déclencheur, liberté, se dire j'avais peur de faire ça, j'y arrive.
Et du coup je me suis dit c'est très con, on va interroger ces histoires de changement de vie. Alors le changement de vie, en plus, c'est hyper tard comme concept, enfin ça peut être hyper tard de changer de vie, ça veut rien dire. Alors, j'avais un investisseur, il faut le dire, j'avais quelqu'un qui mettait un peu de sous, qui s'appelle Laurent Moisson. Bien sûr.
Et c'est ce que c'était déjà à l'époque, donc c'était 2018, donc ça commence à... C'était quoi, il y a 6 ans maintenant? Bientôt 6 ans, 5-6 ans.
Ouais.
C'était déjà à la mode, ce côté, on commençait à en parler de plus en plus.
Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire que le sujet « ils ou elles ont changé de vie », ça revient tous les mois en septembre, quand les gens rentrent de vacances, qui se disent « putain, mais si j'ouvrirai pas... » station-service en Grèce, tu vois. Mais donc, ça revenait tout le temps, mais il n'y avait pas la version longue de ça, de ce truc-là. Et donc, ce que j'ai...
Et vidéo, alors.
Et vidéo. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais monter un média social, ça va être vidéo, ça va être podcast. Je suis trop contente de tripatouiller du podcast, je n'avais jamais fait ça. Puis, encore une fois, j'avais un financier, donc j'étais là, c'était des tout petits budgets, en réalité, hein, mais... tu dis, je vais tester ça. Et puis, il y avait Instagram, monter un média Insta. Et là où je suis très contente et assez fière, j'avoue, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde commençait à parler des algorithmes. On disait, mais quand tu veux mettre un truc sur Facebook, c'est maximum une minute. Et puis sur Insta, c'est des textes courts et tout. Et en fait, j'ai fait seulement ce que je voulais. J'ai fait des vidéos en me disant, putain, faudrait quand même pas que ça dépasse 3 minutes. Donc, j'interviewais des nanas... ou des mecs, mais sur leur histoire de changement de vie, c'était des interviews très poussées. C'est-à-dire que pour avoir le résultat un peu sensible qu'il y avait, la raison pour laquelle ces vidéos, elles ont cartonné, c'était 2h30 d'interview, quoi. C'était, on y allait, on retroussait les manches et on allait chercher les tripes. Et des fois, il y avait des interviews où la personne, pendant 1 heure, elle me donnait un petit peu son truc, son histoire très lisse, ce qu'elle avait, Et puis, il fallait aller chercher au moment où ça craquait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, truc de l'interview, quoi.
Vous étiez juste deux ou t'avais... Non, t'avais la personne qui filmait.
J'avais une cadreuse, ce qui était super, ciné. Et du coup, une fois que tu voulais monter ça, je me souviens de la première, en fait, celle qui a fait un énorme carton. On monte le truc, et puis je fais, putain, mais on descend pas en dessous de 12 minutes. Et tant pis, ça marchera pas, mais on va balancer ça sur les réseaux et ça fera 12 minutes et tant pis, parce que ça peut pas être moins.
C'était qui, la première? C'est pas Anne Bianchi?
Non, c'était pas Anne Bianchi, c'était, comment elle s'appelle? Ariane.
Celle qui était dans la mode?
Ouais,
je m'en souviens. Bossait.
Et là...
C'était là pour une jupe culotte, il y avait une espèce de truc. C'est marrant, je m'en souviens.
C'est-à-dire que, en plus, moi, ce qui m'animait, mais je l'ai compris bien longtemps après, et c'est ça, une des trames de fond, c'est qu'il y a un côté là-dedans, j'ai envie que les gens fassent des gros fuck au système, en fait. C'est ça le truc. Alors si en plus ça passe par la bouche d'une nana qui est très jolie, qui est très bien habillée et qui parle avec un peu la bouche comme ça en cul de poule et qui fait un gros fuck en disant « j'avais le boulot dont vous rêvez, je bossais chez Chanel, j'avais tous les privilèges et tout », mais en fait c'était complètement con et j'ai tout envoyé. Enfin tu vois, le doigt d'honneur.
Ouais,
et en fait moi c'était ça le message derrière ce truc-là. Effectivement, et c'est marrant, c'est pour ça. Et le truc est vu 15 millions de fois, partagé je sais pas combien.
Donc là, la vidéo dure 12 minutes.
Ouais.
Tu dis justement, fuck, on va quand même la sortir parce qu'on va pas réduire plus.
Ouais.
Et la vidéo cartonne directement.
Carton. Et puis ça continue comme ça. En même temps, je développe les podcasts, les vidéos, et très très vite, t'as une communauté énorme. J'avais heureusement, alors le truc qui a été génial, c'est que j'ai recruté une stagiaire qui était ouf, Rosanna. Et on était tous les deux dans un bureau à m'aider et on rigolait toute la journée. Enfin, cette époque était super, donc tout était bien.
J'imagine que tu étais pas mal démarchée parce que du coup, les gens avaient envie de passer aussi dans
Alors, c'était un peu le problème aussi, c'est que j'ai été non seulement démarchée par des gens, beaucoup de gens qui voulaient parler, beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire que ça n'allait pas et qu'ils avaient besoin d'aide. Et j'étais là, hop, 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 moi, je suis pas psy. Ouais. Et en fait, je ne vais même pas vous filer des contacts, enfin, je n'en sais rien. Et puis alors là, je me suis pris sur le coin de la gueule tout le grand développement personnel et les milliers de coachs et avec des couchers de soleil et des anges, etc. Je me suis dit, merde, il y a un vrai sujet. On parle de changement de vie, le terme est un peu... Un peu trop grand, il y a un truc qu'on questionne jamais. Je me suis dit, en fait, ces interviews, elles sont super, mais en fait, c'est pas du journalisme. Je raconte des histoires géniales, je les monte, et en fait, je fais ce qu'on appelle aujourd'hui du contenu inspirant, tu vois. C'est pas du journalisme, je raconte pas la réalité. Globalement, ce qui cartonne, c'est vraiment des meufs qui racontent toute la même histoire. L'argent fait pas le bonheur, sauf qu'on parle jamais de fric. Elles me disent pas qui les a tenues pendant toute cette déviation. Qui était là derrière, si c'était papa, maman, si c'était un appart payé à Paris, si c'était un mari.
C'était Pôle emploi.
Si c'était Pôle emploi, ouais. Comment ça se passe? Et puis finalement, 3 ans après, comment ça se passe? Une fois que... Parce que ce qui était merveilleux dans toutes ces histoires, c'était cette énergie qui circulait, parce que je l'ai chopé un peu au moment où il y avait cette magie, et la magie du changement. Enfin, dans une vie, tu sais, quand tu te retrouves pris dans un truc comme ça qui est plus grand que toi, enfin, c'était beau, quoi, de se dire j'en suis capable, j'ai réussi, ça marche. Donc cette énergie était communicative et c'était pour ça que ça marchait aussi bien. Mais en fait, j'allais chercher des belles histoires. Et à un moment, ça a un peu commencé à me gêner. Je me suis dit putain. Et puis tous ces gens qui m'écrivaient en me disant ça va pas, j'ai senti un décalage. Et puis quand on a commencé avec mon associé à penser à un business model, moi je m'y retrouvais plus. J'avais pas envie de vendre du coaching. C'est les médias aujourd'hui. C'est compliqué, donc j'en suis sortie. Donc, j'en suis sortie, ouais.
Donc c'est quoi, c'est quelqu'un à racheter?
Okay. Ouais. J'ai cédé mes parts, enfin j'ai vendu mes parts à mon associé, plus d'autres gens, voilà. Et qu'il a développé à sa sauce, qui n'est pas celle que moi j'aurais forcément faite, mais bon, qui est la sienne. Et puis voilà quoi.
Sans avec... regret.
Non, alors au début je me suis dit, putain, t'avais vraiment un truc hyper fort entre les mains, tu t'es barré. Mais il y avait vraiment un truc pour le coup d'alignement, je disais c'est pas possible, tu peux pas... Il y a eu un malaise, mais il y a un malaise qui est... Enfin, quand je te dis que je recevais des messages, c'est que je recevais aussi 300 messages par jour. Hein. J'étais seule aux manettes. Quand tu as une vidéo qui fait 15 millions de vues, des gens, et puis tu réponds à tout le monde parce que tu dis, putain, je vais pas les laisser. Alors, il y avait des messages adorables de gens qui disaient, ah, j'ai vu votre vidéo, du coup, j'ai largué mon mari. Oh, calmos. Ouais. Mais voilà, ça te donne une responsabilité un peu, enfin, où t'as l'impression que ça te donne, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde réagit pour tout. Ouais. Je sais pas si c'est... Tu vois, tout ça aussi un peu fake. Et, voilà, mais...
Non, mais clairement, t'avais quand même senti l'air du temps par rapport à ça. Ça collait, ouais, tellement à ce moment, à ces années-là où la quête de sens émergeait. C'est toi qui as fait la transition toi-même, et c'est hyper intéressant. C'est que tu dis qu'en fin de compte, ces nanas ou ces hommes que t'interrogeais ne parlaient pas de comment... ne parlaient pas d'argent.
Non.
Et est-ce que c'est pour ça que tu as voulu créer Thune ou pas du
tout? Entre autres, effectivement, il y avait de la rétention d'infos, voilà, et puis, enfin, il y avait de la rétention d'infos, pas forcément. On n'a pas envie de parler de ça, en fait. Quand on raconte son histoire, on a envie de garder la partie glitter, et puis certainement de ma faute, hein, j'interrogeais pas, je poussais pas ce truc-là. Mais ça, je me suis dit, tiens.
Les gens sont mal à l'aise.
Les gens sont mal à l'aise.
C'est mon mec qui m'a sponsorisé, voilà. Que j'ai créé ma marque de vêtements pour enfants.
Enfin, bah, exactement. Vois, bah,
mon mec bosse en finance.
Ouais, mon mec bosse en finance. Ouais. Voilà. Et puis, ça ne fait pas partie du beau récit. C'est surtout, ouais, tu vois, c'est pas, je ne veux pas dire, c'est vraiment, il faisait de la rétention d'infos. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je te dis, je ne posais pas les questions et ça ne fait pas partie du récit. Et là, je me suis dit, putain, il y a un sujet sur le fric. Il y a libération de la parole sur tout. On passe notre temps à se répandre sur tout. Ah, c'est génial, hein, moi je l'adore cette libération de la parole, même si des fois elle fait un peu mal à la tête, c'était un peu trop de bruit des fois, je trouve, mais tout, on parle de postpartum, de ménopause, de un dîner, enfin, je te connais depuis 5 minutes, moi je peux te parler de mon périnée, quoi, enfin tu vois, c'est, eh ben, on parle pas de thunes, on n'en parle jamais, alors que c'est ce qui structure absolument, c'est ce qui gouverne le monde, et surtout, qui structure la façon dont toi tu vis, dont moi je vis. On peut aujourd'hui avoir le même âge, le même boulot, la même structure familiale, gagner la même chose. Et en fait, on ne va pas du tout vivre de la même façon. Si toi, tu es héritière, si ton mari bosse dans la finance, si en fait, depuis que tu as 20 ans, tu économises et que tu t'es acheté un studio que tu loues, ça change absolument, enfin, ça structure absolument tout.
Oui, la peur du manque, la parfois peur du manque, celle de dépenser...
Et toi, c'est un sujet qui t'a toujours intéressé?
Alors, il m'a pas intéressé. Non, avant, il m'intéressait pas du tout. Pendant très longtemps, le fric, ça m'a pas du tout intéressé. Et ça s'est mis à m'intéresser, je dis, en sortant des déviations. Ouais. Et qui est assez rigolo. Ce qui est assez rigolo, c'est que ces histoires de changement de vie m'ont quand même donné beaucoup de force. En tout cas, ils m'ont mis dans un mood assez particulier. À ce moment-là, moi qui me cognais contre des vides, j'ai rencontré un mec. Je suis tombée enceinte très, très vite, hein, 2 mois.
Ah
et
oui.
Puis, il avait des enfants. J'avais déjà un enfant. Donc, on a acheté une maison. Donc, avec, et on s'est retrouvés à vivre à 6, quoi. Et donc, oui, là, à un moment, tu te dis, tiens, en fait, jusqu'à présent, je bricolais un peu dans mon coin. Le sujet n'existe pas. Puis là, tu te dis, ah ben oui, mais ça devient conséquent. Là, je viens de m'endetter. Enfin, l'achat d'une maison. Enfin, ce truc d'adulte, quoi. Je viens de m'endetter, il va falloir commencer à mettre le nez dans des budgets. Et puis là, tu fais, mais en fait, je n'y connais rien. J'ai un compte courant, vaguement un espèce de truc qu'on m'a fait ouvrir à la naissance de mon fils, où je dis d'accord, je n'y connais rien. Comment font les gens? Il y a aussi cette dimension. Comment ils font?
Comment font les autres?
Ils ont tous l'air d'être hyper à l'aise avec ça. Moi, pas du tout. Et puis, je trouve que ouais, quand tu passes comme ça à l'âge adulte, en fait, les problématiques de fric, ça y est, elles commencent à se cristalliser un peu. Tu vois qu'il y en a, qu'il n'y en a pas, qui a hérité, qui n'a pas hérité, que tu commences à avoir les premiers héritages, les parents qui meurent, les façons de vivre. À 20 ans, les bourgeois, enfin on les voit moins, mais à 40 ans, vraiment, le bourgeois qui consomme, qui machin, qui va au Club Med, tu le vois. Et puis celui qui continue à tirer la langue les fins de mois et qui va plutôt faire un pique-nique dans un parc. Et puis du coup, ça te sépare à 20, 30 ans. Tu fais en sorte que ça roule. Et puis là, tu vois que ça commence à séparer les gens. Là, je te parle de gens pour qui tout va bien. On ne parle pas des SDF, des réfugiés. Ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, il y avait un côté voyeuriste. On va aller poser la question à tous ces gens sur les thunes et se dire ce qu'on se raconte jamais.
Et dès le début, tu t'es dit, j'ai envie de faire un format podcast. Là, pas forcément
vidéo. Ouais, podcast, parce que j'ai bien vu le premier interviewé, j'ai tellement galéré à le trouver. D'ailleurs, les 4 premières interviews, c'est des potes et c'est anonyme. Et le podcast permet l'anonymat.
Oui, mais en même temps, moi, j'aurais peur qu'on reconnaisse ma voix. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent se dire ça aussi.
Il y a énormément de gens qui refusent pour ça.
Ah, c'est vrai.
Après, ce qui est marrant, c'est que là, on est à 100 épisodes et personne ne s'est plaint encore. Non, tout le monde a trouvé ça super.
Dès le début, tu t'es associée avec Anna ou au début, tu étais toute seule?
Non, j'étais toute seule. J'ai commencé à le faire. Je me suis dit, putain, mais quel sujet de feu. Et puis,
parce que ça n'existait pas d'ailleurs. Des interviews où tu interrogeais des personnes sur leur rapport à l'argent.
Et puis sur combien? Et puis sur d'où vient le fric, fait, c'est ça. Ou d'où ne vient pas le fric? Parce que, comme dit, je ne sais plus comment il s'appelle, sociologue, mais la pauvreté est aussi un héritage, même avant la richesse. Et puis, au bout de 4 épisodes, je me dis, waouh, ça va être dur, je me prends des vents tout le temps, c'est beaucoup de montage et tout. Et puis, il y avait Anna, c'était pendant le Covid, je crois que j'avais au téléphone, qui était une copine, mais de loin, en fait. On se connaissait mal depuis très longtemps. Et puis, justement, Anna part à Dubaï, parce que c'était le Covid, et qu'elle se dit, tiens, moi, je vais en profiter, tout le monde enfermé en France, je vais aller dans des pays où il y a moins de restrictions, pour continuer à jouer au badminton. Bon. Elle le raconterait mieux que moi, mais c'est la folie d'Anna. Et donc, elle m'appelle pour Dubaï. Et je fais, waouh, génial, hyper intéressant, tu vas à Dubaï et tout. Pareil, c'est la dernière personne qu'on voit à Dubaï, Anna. Ouais. Donc, plutôt amusant, donc on se retrouve là-dessus. Et d'un coup, je lui dis, mais tu serais parfaite pour faire thune avec moi. Donc, Anna, elle est journaliste, une excellente journaliste. En plus, elle est très, très bonne. Elle est bien meilleure journaliste que moi. Moi, je pense que je suis meilleure conceptrice, rédac chef. Mais elle, c'est une très bonne journaliste. Journaliste politique, journaliste d'enquête. Elle pense bien, elle pense juste. Et puis surtout, elle comprend le monde. Elle a la politique dans le sens, si tu veux. Et donc, on en parle et tout. Et puis, assez vite, elle me dit, je suis chaude. Et donc, on est parti, on l'a fait ensemble, quoi.
Et pourtant, ça fait 2 ans et demi, mais c'est toi qui interviews.
Non, elle aussi.
Elle aussi.
On en fait une sur deux à peu près.
Comment vous sélectionnez vos invités? C'est des gens qui viennent à vous. Alors, tu disais que les premiers épisodes, ça a été compliqué parce que c'était tes copains.
Ouais.
Maintenant que le podcast marche quand même bien, vous êtes à plus de 100 000 écoutes par mois.
Vous avez eu des parutions dans, bah, notamment dans Voici. Bon, je t'ai envoyé un message, c'était quand même énorme de voir Thune en coupe de Voici.
Ouais.
Moi, je suis une fan de Voici, je l'avoue.
Moi aussi.
Voilà.
Et Télérama.
Oui, voilà, Télérama, énorme.
Machin, ouais, pas mal de trucs.
Sophie, quoi. Télérama plus Voici, pour moi, c'était.
Ouais, c'est un bon combo. Bah, ouais, vraiment. J'avoue.
Donc maintenant, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous contactent en disant moi, je veux passer dans Thune? Comment vous faites le tri?
Un peu, mais pas. En fait, on dit souvent non pour ces gens-là parce qu'il y en a plein qui viennent en pensant qu'ils vont venir faire un petit tour. Un petit promo, tour de promo. Ouais. Et donc, qui clairement n'ont pas écouté le podcast parce qu'on leur dit bah, en fait, t'es prêt à nous raconter combien gagnaient tes parents, toi, combien tu gagnes, comment tu dépenses, combien gagne ta femme. Et à nous. Non, puis surtout, il faut qu'il y ait un angle, si tu veux, il faut qu'on voit tout de suite si un truc se dessine ou pas. En plus, on doit acheter un épisode tous les 4 épisodes hein, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un angle, en fait.
Ouais, ouais.
Et, donc, les gens un peu nous contactent, mais surtout, on va les chercher. On essaye de varier. Et encore, on varie pas assez à notre goût, mais c'est vrai que ça peut aller d'une prostituée à un millionnaire.
Vous variez là. Énormément.
Ouais.
Moi, je trouve qu'en 100 épisodes, chaque épisode est unique. Enfin, moi, j'adore le podcast. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'adore le podcast et je trouve ça, à chaque fois, tu dis, ah, faut que je l'envoie à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Chaque épisode, fait écho. Bon, à part le mec qui a gagné au loto, tu te dis, bah non, bah, c'était pas moi. Mais chaque épisode fait écho, je trouve, à quelqu'un que tu peux connaître.
Ouais.
C'est ça aussi qui est fort.
Ouais, c'est ça qui est fort. C'est que c'est. Enfin, je dis oui, c'est ça qui est fort. Mais parce que. Mais,
j'adore
non,
mon
mais,
podcast.
Non, mais c'est vrai que. Alors, vraiment, je pense que c'est un de mes meilleurs projets. Je suis ravie de faire ce truc-là avec Anna. Je trouve que c'est un projet de qualité. Et je pense que potentiellement, c'est celui qui va. Sur lequel je me serai le plus fatiguée pour pas grand-chose au final. Parce que. C'est pas feel good, c'est pas dans l'époque, parce que voilà. Mais je trouve que c'est un projet de qualité et quoi qu'il se passe, j'en suis contente de ce projet. Tu vois, alors que Les Déviations, ça a été un total carton, mais parce que c'était une bonne idée et tout, mais Thune, on est intègre et on est droite, quoi. Je sais pas, il y a un truc de. Et puis on se prend la tête, quoi, pour varier. Bah, je sais pas comment on les trouve. Je sais jamais comment on les trouve. Là, j'ai interviewé un détenu qui a fait 9 ans de tôle et qui me raconte l'argent dans la prison et tout. Enfin, c'est passionnant.
Ouais.
Et puis surtout, comment tu gâches ta vie sur un plan bancal qu'un mec t'a rapporté. Ouais, il y a un coffre-fort dans cette baraque. Ouais. J'ai vu l'autre jour, il était ouvert.
On peut rentrer sans problème, je connais
le code. On peut rentrer sans problème, tu vois. Putain, le mec, il a pris 9 ans de tôle, quoi. Et comment, tu vois, ça te fait vriller la tête. Enfin, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant du côté des riches, aussi bien du côté des riches que du côté des pauvres. Mais on n'a pas encore une milliardaire. On a eu des millionnaires, mais pas de milliardaires.
Écoute, je suis désolée, je ne connais pas de milliardaire dans mon entourage.
Tu me déçois un peu.
Ouais. Je ne peux pas te demander l'épisode qui t'a le plus marqué, mais il y en a quand même certains qui doivent te venir à l'esprit comme ça.
Écoute, j'ai vachement aimé Julia Mancitieri, qui est pour le coup sociologue. Ce n'était pas un épisode dans l'intime, c'était un épisode plus d'experte, mais qui est sociologue de la mode et qui raconte ce truc... Si tu n'as pas de capital, quand tu bosses dans les métiers de la mode, tu t'en sors pas. Et c'est un truc qui s'applique à énormément de métiers passion aujourd'hui et aussi de métiers intellectuels. Globalement, c'est des métiers où tu te retrouves quasiment à payer pour les exercer, en fait. Et ça, c'est une vraie tendance de l'époque que je ne voyais pas aussi distinctement avant. Et c'est marrant, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'avec ce projet, tu sais, autant MeToo, c'est comme si ça nous avait toutes mis, et tous un peu aussi, j'espère, mis des lunettes sur les yeux. Et qu'on voyait les choses plus clairement, plus nettes, quoi, comme si on avait des nouvelles lunettes. Et ben moi, Thune, ça me fait un peu cet effet-là. Je pense que j'étais en plus assez naïve et un peu nullarde en politique. En plus, j'y comprenais pas grand-chose. Et d'un coup, ben en fait, je vois les inégalités, je vois comment des gens en fait se débattent dans des métiers en pensant potentiellement être nul ou pas avoir loupé des trucs, quoi, alors que c'est juste contextuel. Tu vois, donc cet épisode de la mode m'a marqué pour ça, parce que je les ai vus, moi, de mes yeux, ces filles géniales qui bossaient dans la mode, dans les magazines, toutes se barrer à la quarantaine pour faire autre chose. Parce qu'en fait, elles avaient beau être invitées au défilé et puis être dans des hôtels 5 étoiles, et les petits déjeuners au Ritz, le soir, elles rentraient chez elles, elles bouffaient des pâtes dans leur studio à la chapelle, tu vois. Et en fait, c'était pas tenable. Et tu le vois dans des métiers aujourd'hui comme... le journalisme, tu le vois chez les chercheurs, tu le vois dans tous les métiers passion qu'on nous vend dans la grande histoire un peu glitter de la reconversion, ébéniste, machin et tout. C'est super dur, quoi. Voilà, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte avec Thune, qui est intéressant.
Est-ce que tu as déjà été agacée par un invité?
Ouais, je suis agacée, mais quand ils racontent à moitié, quand ils ont envie de le faire en...
Ils ont envie de raconter une histoire un peu du fake. Quoi. Ouais. Ou alors je raconte ce que je veux raconter en mode je fais ma pub.
Ouais. Okay. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, là, avant chaque épisode, il y a 2 ou 3 entretiens où je leur dis en fait, s'il y a de la rétention d'infos, on n'y va pas en fait. C'est pas possible.
Et les retours que vous avez des auditeurs et des auditrices, ils sont hyper nombreux. C'est une manière de parler de l'argent qui est appréciée.
Ouais, ouais, ouais. Les gens aiment bien. Alors ce qui est marrant, c'est que quand tu fais un projet au bout d'un moment, enfin, moi, en tout cas, quand je fais un projet depuis un moment, je ne comprends plus trop ce que je fais. Et je suis là, des fois, je me réveille, mais pourquoi on fait ce podcast? Mais en fait, c'est hyper voyeuriste. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu as besoin? Non, mais vraiment, tu vois, je me sens super mal. Hein, mais des fois, ça dure plusieurs jours. Mais pourquoi tu as besoin de poser ces questions-là aux gens? Mais un peu de respect, un peu de pudeur, quoi, tu vois. Tiens-toi, meuf, tu vois. Et puis, de temps en temps, il y a un message de gens qui me disent « Ah ouais, j'adore, mais en fait... » Ça permet de prendre le pouls de la société, de comprendre comment elle fonctionne en posant la question justement de l'argent. Et je suis ah putain, il a compris. C'est ça, on prend le pouls de la société. Donc ça me rebooste un peu parce que les gens voient différentes choses. Mais c'est ça, fondamentalement, c'est ça, c'est de la société. Mais voilà, des fois, moi, je perds un peu ça. Je me dis, mais pourquoi on fait ça?
T'as l'impression que les tabous par rapport à l'argent, ça... sont en train de tomber? Est-ce que ça change, en tout cas en France?
Est-ce que j'ai cette impression-là? J'en ai aucune idée, en fait. Pour le moment, non. Certainement que chez les classes moyennes, là, puis chez les plus précaires, de plus en plus. Parce que... Enfin, si, en fait, avec l'inflation, là, tout le monde en parle. Je vois des gens... J'ai vu des gens sur Insta qui disaient « Bon, j'ai un rein à vendre, je viens de recevoir ma taxe foncière, si quelqu'un est intéressé. » Enfin, là...
ouais, en fait, ça a augmenté la taxe foncière, je crois, 40% dans certaines villes.
À Paris, notamment, ouais.
40% à Paris.
Je crois que c'est 50% à Paris. Mais, donc, ouais, les gens, là, avec l'inflation, avec le panier de courses et tout, là, tout le monde est un peu en train de se dire « Putain, c'est dur, on tire la langue. » Après, chez les classes les plus fortunées, je ne suis pas sûre qu'ils en parlent si facilement que ça. Ça reste quand même bien verrouillé, ouais.
Alors, on parlait justement en off tout à l'heure, comment on se rémunère, nous, par rapport au podcast. Donc, pas de spoiler, autant vous dire que c'est quand même assez compliqué. J'ai vu que Thune avait mis en place un système de cagnotte, c'est Tipeee, c'est ça?
Ouais.
Alors moi, ça m'intéresse, c'est une question qui intéresse peut-être pas tout le monde, mais je m'en fous, c'est mon podcast, je fais ce que je veux.
Ouais.
Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les gens participent réellement
Ouais.
Comment vous avez eu cette démarche de vous dire « Ok, on lance une cagnotte », c'est parce que c'est hyper répandu dans le podcast
C'est déjà les nouveaux usages. Hein, Alors nous, on est un peu avec Anna, tu vois, on a la quarantaine passée. Il y a déjà des trucs qui nous échappent sur les nouveaux usages de consommation des médias. Hein. Je me suis dit, tiens, il faut peut-être s'y intéresser. Plein de gens nous écrivent et en fait, ouais, alors là, on a 100 personnes qui donnent un petit peu. Ça reste encore des petits montants, mais déjà 100 personnes, c'est énorme. Je trouve ça hyper cool. Merci à eux. L'idée, ce serait de réussir à vraiment à auto-financer le podcast.
Tu le conseilles ou pas de lancer une cagnotte comme ça, enfin de lancer un Tipeee
Oui, parce que les gens sont prêts, sont quand même prêts à payer. Enfin,
oui, ils comprennent que ça peut être des projets où tu peux bosser à perte.
Je pense plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, à un moment donné, il y a eu la grande gratuité du web là. En plus, je pense qu'en France, on a géré ça, mais vraiment n'importe comment. Du jour au lendemain, tout est devenu gratos. Plus personne n'a lu la presse. Enfin bon, maintenant, ça se dépend sur les réseaux sociaux et tout. Mais personne n'était prêt à payer. Enfin, ça a été dur de convertir les médias en abonnement, tu vois. Et là, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que pour écouter ou voir ou quoi des choses de qualité, il faut mettre un peu la main à la pâte. Et puis, il y a aussi cette phrase que tout le monde dit aujourd'hui, si tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit.
Oui, oui.
Les gens l'intègrent, ils commencent à le comprendre. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir des annonceurs. Mais à terme, voilà, idéalement, avoir un Tipeee, ce serait génial.
Ouais.
Ouais.
Mais je crois que ce n'est pas Meta Choc, justement, tu sais, le podcast.
Si.
Elle s'appelle comment? Elisabeth Fétit, qui a un Tipeee et qui vit qu'avec... Bon, après, c'est différent.
Qui vit qu'avec ça. Avec un positionnement hyper fort où elle dit, voilà, en plus, elle fait un truc sur toutes les dérives du développement personnel. Elle. Et elle dit, voilà, moi, je n'aurai jamais d'annonceur. Ouais. Donc, mettez un petit peu. Et moi, je ne sais plus combien elle a, mais elle est très transparente là-dessus. Et en plus, elle fait un vrai travail d'enquête, de contre-enquête, en fait. C'est hyper intéressant ce qu'elle produit. Et du coup, les gens sont prêts à participer à ça, hein. Et moi, c'est ce que je dis sur Thune, je fais si tous les auditeurs nous donnaient 1 euro, en fait, on aurait une puissance d'action géniale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que nous, pour trouver des intervenants.
Oui, en plus, c'est un épisode par semaine.
C'est un épisode par semaine. Anna, elle vit à Marseille, moi, je vis à Paris. L'autre jour, Anna voulait absolument interviewer la caissière qui a super bien marché, qui vit à Nantes, à côté de Nantes. Bon, bah, c'est des transports, c'est des frais d'hôtel, c'est des... Voilà. Si on veut ne pas interviewer uniquement des Parisiens, parce que ça, c'est le pire pour un média, même si beaucoup le font, mais ça réduit le spectre d'une façon insensée. Il faut qu'on se déplace. Enfin, c'est un vrai boulot, quoi. C'est beaucoup de travail.
Alors, ce sera le mot de la fin pour ce premier épisode avec toi, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.